Chers auditeurs, quand fut connue au Labour la décision du roi Louis XVI de convoquer les États généraux, les délégués des trois ordres se rassemblèrent à l'église d'Ustalitz le 19 avril 1789. C'était la première fois que le clergé labourdin se retrouvait ainsi réuni encore constitué, car il ne faisait pas partie du Bilsard. Sur les 35 curés que comptait la partie labourdine du diocèse de Bayonne, 31 s'étaient déplacés. Monseigneur de Villevielle, l'évêque de Bayonne, était là, ainsi que l'abbé des Prémontrés de Laonce. 25 prébendiers, 9 prêtres et 4 procureurs de communautés religieuses complétaient le groupe du clergé. L'assemblée était présidée par Monseigneur de Villevielle, qui fera une discrète campagne pour être désigné comme député de son ordre. Mais les curés du Labour lui préférèrent un des leurs, Monsieur de Saint-Estébin, curé de Cibourg. C'est donc à ce dernier qu'ils confièrent le cahier de leur doléance avec mission de le remettre au roi. 3 commissaires avaient été choisis pour la rédaction définitive du cahier. Il circulait en France des libelles qu'on pouvait reproduire ou qui pouvaient aider les rédacteurs à préciser leurs idées. Il est possible qu'à Ustalitz, un de ces textes ait inspiré les commissaires quand ils demandaient, par exemple, que les premières dignités de l'Église ne soient conférées qu'à des prêtres qui auront mérité la confiance du peuple dans les fonctions du ministère pendant plusieurs années sans que la naissance ou la faveur soient des titres pour y parvenir. Par contre, il est certain qu'ils exprimaient leurs sentiments personnels et celui de leurs confrères quand, immédiatement après, ils émettaient le souhait que les évêques de Bayonne, à cause de l'idiome basque du diocèse, qui n'a aucun rapport avec les autres langues, soient choisis parmi les naturels du pays. De même, à propos de l'établissement qu'ils appelaient le Collège de la Ressort, on sait que Monseigneur de Villevielle avait formé le projet de le déplacer et de l'établir à Bayonne. Les curés estimaient qu'une telle délocalisation serait préjudiciable au recrutement et à la formation des prêtres pour le Pays basque. Au contraire, disaient-ils, qu'il y soit établi, à la Ressort, des bourses par la réunion de quelques bénéfices en faveur des étudiants qui sont dépourvus de moyens nécessaires pour leur éducation ecclésiastique, les Basques, à cause de leur idiome, ne pouvant avoir des ministres de la religion que parmi les naturels du pays. Les prêtres labourdins exprimaient également d'autres souhaits, qui étaient ceux du clergé français, concernant des questions matérielles, les dîmes, par exemple, ou la portion congrue. Ils revendiquaient également le droit de s'assembler lorsqu'ils le jugent nécessaire, sous la présidence de l'évêque diocésain et, sur son refus constaté, sous celle du plus ancien d'entre eux, à la réquisition du syndic du diocèse. Les prêtres demandaient encore que, conformément aux lois canoniques, ils soient tenus des synodes diocésains à des époques convenables. Au point de vue administratif, ils demandaient à être conservés, disaient-ils, comme nous avons toujours été, et à ne nous mêler à aucun autre peuple, quelque avantage qu'on puisse nous annoncer. Les curés labourdins concluaient leur cahier de doléances par des recommandations à leurs délégués, ne lui interdisant que la faculté de porter atteinte à la liberté individuelle et à la propriété personnelle des citoyens. En Basse-Navarre, à la convocation des États généraux, le clergé et la noblesse réagirent en proclamant que la Navarre était non pas une province, mais un royaume indépendant. Le tiers-État se joindra au clergé et à la noblesse pour signifier au roi que la convocation pour la Navarre est irrégulière, illégale, anticonstitutionnelle. Louis XVI reconnaîtra que les Navarrais ne pouvaient être soumis aux règlements faits pour les provinces de France. Ce n'est donc que le 15 juin 1789 que les États de Navarre vont se réunir à Saint-Jean-Pied-de-Port après avoir reçu du commissaire royal la promesse de Louis XVI de maintenir la Navarre dans ses privilèges. Ils vont confier à une commission le soin de rédiger le cahier de doléances et il n'y en aura qu'un seul pour les trois ordres. Un article voulait attirer l'attention du roi sur la situation matérielle difficile des curés et le supplier de vouloir s'occuper de leur sort afin de l'améliorer. Pour représenter le clergé, ce fut Mgr de Villevielle, évêque de Bayonne, qui fut élu par acclamation. La délégation navarraise arriva à Paris vers la mi-juillet 1789. De nombreux événements et importants s'étaient déjà déroulés à Versailles et à Paris. Mais fidèle au mandat reçu, la délégation navarraise s'occupa simplement d'obtenir du roi qu'il prêta serment comme roi de Navarre et que l'indépendance de celle-ci fut sauvegardée. Ses efforts n'eurent aucun succès. Quant au député du clergé Labourdin, M. de Saint-Estébin, il participa aux diverses réunions des États généraux. Il interviendra même une fois à l'Assemblée quand il s'agira de la constitution civile du clergé à propos des candidats pour l'élection à l'épiscopat. On ne sait s'il fut du nombre de ces curés qui, le 27 juin 1789, bravèrent la défense du roi et allèrent se joindre aux tiers-états, changeant ainsi le cours des choses et initiant pratiquement la Révolution. On ne peut pas davantage dire si lui-même et son évêque se sont tenus à l'écart de l'enthousiasme qui, la nuit du 4 août, s'empara des députés et les amena à renoncer à leurs privilèges. Malheureusement, cette nuit-là, on n'abolit pas seulement les privilèges des personnes ou des catégories sociales, on y avait inclus également les régimes particuliers de certaines provinces, une constitution nationale, disait-on, et la liberté publique étant plus avantageuse aux provinces que les privilèges dont quelques-unes jouissaient. Ainsi se trouvaient supprimées des institutions séculaires qui avaient permis aux Labourdins et aux Bas-Navarrais de se gouverner librement et de façon parfaitement démocratique. Ce fut l'indignation et la consternation au Bilsar du Staritz. Les frères Garate s'était laissé entraîner dans le mouvement d'enthousiasme irréfléchi de la nuit du 4 août. On imagine également la déception des curés Labourdins, eux qui avaient demandé, comme nous l'avons dit, à être conservés, comme ils l'avaient toujours été, dans une parfaite autonomie administrative. Monsieur de Saint-Estébin refusera le serment constitutionnel quand l'Assemblée constituante l'imposera aux ecclésiastiques. Déchu de ce fait, de son mandat de député, il revint au pays, sans doute à la fin de 1790 ou au début de 1791. Il signe des actes de catholicité à la paroisse de Cibourg à partir du 20 mai 1791, pendant un mois environ. On pense qu'il émigra en Espagne durant l'été de cette même année. Mgr de Villevielle se rendit compte qu'il n'avait rien à faire au milieu de l'effervescence et de l'agitation désordonnée que connaissait l'Assemblée nationale. Il estima plus utile de revenir à Bayonne au milieu de son peuple pour y constater les conséquences des décisions regrettables prises à Versailles, en particulier à l'égard des ordres religieux. C'est ce que nous verrons la prochaine fois.